Copy Kizem.
Bonjour, c'est le mag sur Tropic FM. Bah aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir au téléphone Jean-Michel Pigeon, chanteur, guitariste, claviériste, auteur, réalisateur du groupe Montréalais Monogrenade. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Bien. Alors toi, tu n'es pas originaire de la commune du département de l'Ain, pas très loin de Bourg-en-Bresse, mais de la métropole du Québec au Canada. J'imagine que Pigeon est un nom d'origine française.
Pigeon, je pense que c'est québécois, ouais, en fait.
D'accord. Ah, d'accord.
Ouais.
Ok, d'accord. Alors, ton prénom est Jean-Michel, ton père s'appelle Michel. C'est une coutume chez les Québécois de rajouter Jean au prénom du père pour le donner au fils. Les Michel ont encore la cote au Canada.
Je ne sais pas si c'est une habitude, mais ouais, mon père, ils ont décidé de m'appeler Michel. Je pense qu'ils sont habitués. Ma mère voulait m'appeler Jean, pas Michel, quelque chose comme ça, donc...
D'accord. Donc, je dis, les Michel ont encore la cote au Canada?
Oui, ça marche.
Bon, très bien. Ça me rassure. je suis pas tout seul, alors ça va. Alors, j'ai parlé de groupe montréalais à propos de Monogrenade. Tous les musiciens qui composent actuellement le groupe sont tous de la ville et cette montagne que Jacques Cartier a nommée Mont-Royal.
Non, en fait, on vit tous dans ce coin-là maintenant, mais on n'est pas tous natifs de Montréal. Il y en a qui sont nés à Québec. On est tous nouveaux au Québec, mais pas tous à Montréal.
D'accord. Alors, Monogrenade, c'est l'histoire d'une rencontre, hein, ou de retrouvailles, je dirais. Celle avec Frédéric Beaulieu-Girard en 2008, mais c'est aussi et surtout ta propre histoire, puisqu'on peut lire dans la biographie officielle du groupe, je cite, hein, ce dernier, c'est-à-dire toi, fait le grand saut et décide de sortir de l'ombre ses compositions et de les porter au bout de ses bras, et de rajouter auteur-compositeur depuis les premiers jours. Jusqu'en 2008, y compris lors de ton passage dans le groupe Winter Gloves, tu n'avais jamais osé interpréter tes propres compositions, que ce soit en solo ou avec un groupe?
Non, c'est ça. J'ai toujours, depuis 15-16 ans, j'ai commencé à écrire des petits bouts de chansons. Mais au début, j'avais des cassettes, puis j'ai toujours fait ça parce que j'aimais vraiment ça. Mais j'avais jamais fait de spectacle ou jamais sorti de chanson. Puis à un moment donné, j'ai auditionné pour jouer avec Winter Gloves, puis j'ai été pris, donc on est parti en tournée. On dirait que le fait de se mettre à jouer des concerts, ça m'a vraiment donné le goût de faire mes propres chansons. Puis c'est comme ça que ça a commencé, en fait.
Ouais. Je parlais de des retrouvailles avec Frédéric Beaulieu-Girard, qui n'est plus dans le groupe aujourd'hui et que tu avais connu lors de tes études. C'est lui qui t'a convaincu de te lancer dans l'aventure Monogrenade?
Ouais, ben en fait, ça a commencé un peu comme ça aussi. Il m'a appelé, il y avait des chansons, lui, qu'il voulait faire réaliser, puis il savait que moi, je faisais de l'arrangement électro, fait qu'il m'a appelé. On était dans un chalet, puis là, on a écrit des petites chansons ensemble, puis... En français, parce que ça aussi, ça m'a ouvert une autre porte, j'ai écrit mon juste.
D'accord.
Le français, ça m'a comme, ouais.
Mm-hmm. Alors, Monogrenade est la juxtaposition de mono et de grenade, hein, enfin, j'espère. Tu pensais à quoi le jour où tu as trouvé ce nom? Grenade comme le fruit, l'arme explosive, l'île des Antilles, la ville espagnole, la commune française des Landes. Et pourquoi mono? Parce que Monogrenade est avant tout ton projet.
Ben oui. Mais en fait, ça a aucun rapport avec l'arme, pas du tout. C'est vraiment plus le fruit.
D'accord.
Je sais pas si vous savez, on a eu un EP en 2008 qui s'appelait La saveur des fruits.
Mm-hmm.
Donc ça a commencé un peu comme ça. T'sais, on trouvait que le son était un peu low-fi, un peu sale. Donc on a dit mono, puis le fruit, grenade. Donc mono et grenade. Mais il n'y a pas vraiment de concept là, en arrière de tout ça, honnêtement. Là.
Ouais. D'accord. Alors Monogrenade a vu donc le jour en 2008. Les autres musiciens, François, Mathieu et Marianne, sont arrivés rapidement.
Ben, dès qu'on a voulu transposer les chansons sur scène, il a fallu tout de suite trouver des musiciens. Puis moi, Mathieu, c'est mon ami d'enfance. François, c'est un gars que je connais depuis de mon patelin depuis super longtemps aussi. Puis Marianne, on s'est connus plus par Internet.
D'accord.
Donc, voilà.
Ouais. Alors, le premier EP ne s'est pas fait attendre, puisque le 30 juin 2009, vous sortez, tu disais, la saveur des fruits, 8 titres, je devrais dire 8 pièces, hein, comme on dit chez vous. C'est presque un album, visiblement. Tu étais pressé de sortir tes premières chansons.
Ouais, mais c'est pas... On considère plus que le début de Monogrenade est attendal, tu sais.
Ah.
C'est ça, la saveur des fruits, c'était vraiment plus expérimental, zéro extrait. Puis on avait vraiment pas beaucoup de moyens. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais je pense que Tantale, c'est vraiment le début de mon grenade.
Ouais. Alors, avec ce premier EP, donc, vous êtes fait rapidement connaître au Francouverte, un concours plus que recommandable, où vous êtes finaliste, comme 7 ans plus tôt, un groupe nommé Carquois, ou le clip de votre chanson ce soir, qui était bien mis en avant. La France commence à s'intéresser à vous. Cette reconnaissance rapide vous a surpris?
Oui, vraiment. Oui, ouais. Parce que on pensait pas du tout que ça irait si vite. On n'avait jamais fait de concert, on n'avait aucune expérience. On s'est fait tout de suite, comme vous dites, les Francouvertes, c'est assez médiatisé. C'est un concours à Montréal qui est super, super connu, pis tout ça. Fait que tout de suite, les médias, ça a super attiré l'attention. c'est un concert qui est basé un peu sur la critique. T'sais, tout le monde qui assiste au concert laisse une critique. Fait que ça a été une belle première fois, là.
Mmh. Alors, j'ai lu que tu n'étais pas content des conditions dans lesquelles vous aviez enregistré La Saveur des Fruits. C'est une raison pour laquelle vous êtes vite reparti à enregistrer de nouveaux morceaux?
Oui.
Ouais.
Ouais, ben, comme je disais, on avait fait ça avec un ordinateur, une carte de son, 2-3 guitares, puis, tu sais, on a pas pu vraiment pousser à bout les idées qu'on avait. Fait que quand on a fait Tantale, on a vraiment pris notre temps, on s'est enfermé dans un chalet dans les Laurentides. Puis on a expérimenté dans les pièces, tous les instruments qu'on voulait. On a pu mettre des cordes, tu sais, fait que c'est vraiment plus accompli là, que notre EP.
Ouais. Alors pour enregistrer cet album, vous n'avez pas fait comme les autres, à savoir travailler dans un studio déjà existant. C'est uniquement pour des raisons financières. Vous vouliez prendre le temps qu'il fallait, ce qui n'avait pas été le cas pour La Saveur des Fruits.
C'est pas inutilement pour des raisons financières, parce qu'au final, ça coûte sensiblement la même chose. Mais c'est vraiment plus au niveau de du temps. Dans un studio, en fait, faut comme optimiser le temps. Faut travailler dans un horaire précis, dans un contexte précis, avec un réalisateur. T'sais, nous autres, on voulait pas ça parce que on en avait pas besoin, puis on voulait vraiment prendre notre temps. Il y avait des chansons qui étaient pas terminées, qu'on voulait terminer. On voulait vraiment la liberté de travailler quand on voulait. On travaillait souvent la nuit, tu sais, puis on est toutes bien nocturnes. Fait que...
Ouais.
C'est plus pour la liberté. Hein.
D'accord. Vous aviez choisi ce chalet au hasard? Vous aviez forcément une idée précise de l'endroit où vous vouliez enregistrer?
En fait, ça a été un beau hasard, parce qu'il y a une amie de ma soeur qui avait ce chalet-là, qui était pas occupé durant la période où on voulait enregistrer. Fait qu'on y a loué, puis c'était parfait. Il y avait une piscine intérieure. Puis je sais pas si vous savez, mais ça donne vraiment une belle réverbération. Là.
Oui.
C'est le son super intéressant qu'on enregistre là-dedans. Puis... Puis c'est en pleine nature, c'est un peu isolé de la ville, c'est parfait.
Ouais. L'endroit où vous avez enregistré, a-t-il joué dans le rendu final des nouvelles chansons? Parce que si vous aviez eu du temps dans un vrai studio d'enregistrement, Tantal aurait-il eu la même couleur, la même saveur?
Non, pas du tout, parce qu'on l'a enregistré vraiment, toutes les rooms, toutes les reverbs sont toutes naturelles, tu sais, ils ont pas c'est pas des effets, des plugins, c'est vraiment, on a enregistré l'acoustique des pièces, puis... Je pense que ça s'entend sur l'album. Il y a bien des chansons qu'on entend, vraiment l'acoustique naturelle.
Mmh, ouais.
Puis, je pense que ça n'aurait pas été la même chose.
Ouais, je pense à la résonance dans la marge. On entend la piscine, ne doit pas être bien loin, non?
Oui, non, c'est ça. Surtout dans l'araignée, on l'entend bien aussi.
Ouais. Alors, donc c'est toi qui a réalisé l'album. La notion d'indépendance était importante au niveau du lieu, mais aussi au niveau d'enregistrement.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Parce que ça fait partie un peu de la composition. T'sais, quand j'écris une maquette, souvent je la réalise en même temps. T'sais, la musique, ça a beaucoup changé. T'sais, c'est plus une guitare, une basse, un drum, puis la voix, puis le tout, on y va. T'sais. Aujourd'hui, texture, tout le son, je trouve ça amène beaucoup ailleurs. Puis je trouve que ça fait partie de la composition maintenant. Puis j'aurais pas été prêt à laisser ça à quelqu'un d'autre, c'est sûr.
Ouais. L'indépendance, tu y tiens, j'ai l'impression.
Ouais, quand même.
Ouais. Alors, le résultat donc de tout ce travail d'écriture, de composition et d'enregistrement, donc c'est la sortie le 1er mars 2011 au Québec, de votre premier album Tantale. Les illustrations sont issues d'un recueil de lithographies dessinées par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Tantale ferait donc plus penser à l'oiseau qu'à l'élément chimique ou au fils de Zeus, victime du supplice de Tantale.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment plus au niveau de la phonétique, parce que Dans tous nos visuels, il y avait des créatures marines. Puis on trouve que l'univers est bien sous-marin, même dans les chansons, dans le son, il y a quelque chose de sous-marin. Donc ça marchait vraiment tantale, tentacule, tu sais. C'est vraiment plus la raison pour laquelle on a choisi ça. Mais la chanson tantale, elle, c'est plus que référence à la mythologie, parce que ça parle de la gêne, en fait. On fait une petite corrélation entre le supplice de tantale et la gêne.
Mm-hmm. Ouais. Alors, on parle beaucoup d'ambiance organique qui tourne autour du bois et de la nature, que ce soit à travers les instruments utilisés ou une certaine ambiance loin de la ville et proche de la nature, et logiquement de la forêt, puisque vous étiez au Québec. Tantale ne serait-il pas un album écologique?
Je ne sais pas si je pourrais dire ça. Mais, ouais, on a... En tout cas, ça, c'est pas très urbain, c'est sûr, c'est pas très... Mmh. On a fait ça vraiment de façon acoustique.
Ouais. Alors, au Canada et au Québec, en particulier, hein, vous avez la chance d'avoir une scène chanson rock de toute beauté, Arcade Fire, Patrick Watson, Pierre Lapointe, Mes Aïeux, Godspeed You Black Emperor ou Tricot Machine, par exemple, sans oublier nos amis de Carquois. La ressemblance avec ces derniers et Monogrenade est troublante. Je parlerai plutôt de continuité entre vous deux. Vous avez profité de leur période sabbatique pour prendre leur place dans le cœur du public?
Non, il n'y a pas... On se fait souvent comparer à Carquois chez nous, mais ici, ça arrive un peu moins souvent, étrangement, mais je peux comprendre que les gens... Ouais. Je pense que je peux comprendre que les gens ils comparent, mais je trouve que c'est quand même très différent.
Ouais. Donc le succès aidant et vos premiers passages en France réussis, un label français s'est enfin intéressé à vous, Atmosphérique en l'occurrence, et a sorti chez nous en France Tantale le 23 avril 2012, un an après la sortie au Québec. On a l'impression que ces artistes canadiens ne viennent pas jouer chez nous, ils n'ont aucune chance d'être connus et leurs disques encore moins. Je croyais que la mondialisation était en marche pour les artistes comme vous, en fait pas tout à fait.
Non, mais en fait... Nous autres, on est super chanceux de pouvoir venir jouer aussi rapidement. Là.
Ouais.
On a tout, pour nous, tout s'est passé super vite. En fait, ça, la raison pour laquelle on est ici, c'est à cause de M pour Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non. Ah oui, M.
Non, c'est un show.
Non.
Vas-y. En fait, c'est un showcase qui se passe à Montréal. Puis il y a des représentants de tous les pays qui peuvent venir, d'ailleurs d'Europe, de France, de partout. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver un tourneur pour venir jouer en Europe. C'est la raison pour laquelle on est ici et qu'on a sorti l'album, et etc.
D'accord. Non, sauf que chez nous, il y a toujours au moins un an de décalage, voire plus, et on est toujours un petit peu frustré parce que pour avoir l'album, eh ben, on ne l'a pas tout de suite. Il faut toujours attendre. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Ah, c'est sûr. Yeah.
Alors, en France, maintenant, pour un artiste, en France, hein, j'ai l'impression, pas de label, pas de tourneur, et sans tourneur, pas de concert, et sans label, pas de passage dans les soi-disant grands médias. Ça marche aussi comme ça au Québec?
Oui, mais j'ai l'impression que c'est... En fait, le bassin de population est quand même plus petit. Puis j'ai l'impression que la scène est super concentrée, surtout à Montréal.
Mm-hmm.
Fait qu'on dirait que c'est comme plus facile de se faire connaître ou de jouer. Puis à Montréal, c'est super facile d'avoir un band et de jouer partout sans être signé. Ou, tu sais, le coût de la vie est pas cher, les salles sont pas chères. Les gens, ils sont beaucoup pour aller voir des concerts. C'est comme plus facile, je pense.
D'accord. Alors en France, vous arrivez avec une certaine réputation et plutôt bonne hein, dans l'ensemble. Or, comme Carquois, vous vous contentez de chez nous de concerts dans des petites salles où l'entrée est parfois gratuite ou peu chère, comme si vous débutiez et aviez tout à prouver, ce qui n'est plus le cas au Québec.
Ben en fait, on reste un band émergent qui est jeune. Là. On a eu de la bonne presse, on a eu une bonne couverture médiatique, mais faut pas oublier qu'on a seulement 3 ans dans le corps, on n'a pas fait 1000 concerts, tu sais, on est encore au stade où on développe notre show, donc, on fait des grosses salles, mais on fait aussi beaucoup de petites salles encore, d'être dans le sport, puis on est bien content de tout ça, là.
D'accord. Alors, avant de nous quitter, nous voudrions avoir des nouvelles du printemps érable, hein, ce mouvement contre la hausse de 75% des frais de scolarité dans les universités et puis le vote par le gouvernement québécois d'une loi spéciale, la loi 78, la belle loi 78 qui restreint le droit de manifester. Les médias français, à de trop rares exceptions, n'en ont pas trop parlé. Qu'en est-il aujourd'hui? Les étudiants sont toujours dans la rue, la hausse de 75% a été annulée. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous à l'automne plutôt, ouais. Ça en est où?
Ça s'est beaucoup calmé, en fait. Ça a fait un gros effet, puis ça a été super, super gros médiatisé, puis super intense, en fait, pendant les manifestations. Mais là, le canne-plat est revenu, puis est rentré dans l'ordre. Je dirais que genre encore, il y a beaucoup de gens qui portent encore le carré rouge dans la rue, mais ça fait moins sentir là, quand on se promène dehors, vraiment moins.
La hausse de 75% a été maintenue?
Non, je pense qu'ils ont réussi à négocier quelque chose. Là. Ah. Honnêtement, nous autres, on est plus aux études, honnêtement. Moi, j'ai pas trop été à l'affût de ce débat-là, mais je pense qu'ils ont quand même réussi à avoir ce qu'ils voulaient en partie.
Et cette loi 78, elle est toujours en vigueur?
La loi 78?
Ouais, qui a restreint le droit de manifester lors de ce printemps érable.
Ouais, mais je sais qu'ils ont eu des problèmes avec ça. Ouais, je pense que jusqu'à la fin, il y a des manifestations qui ont été déclarées illégales. Puis...
Bon. Eh bien, merci Jean-Michel Pigeon du groupe Monogrenade d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Ben, merci à vous.
Alors, rappelons que votre formidable premier album Tantal est sorti en France depuis le 23 avril 2012 sur le label Atmosphérique et qu'on peut se procurer un peu partout. On vous retrouve sur Internet via votre site www.monogrenade.com.
Oui,
n'est-ce pas?
Fait.
Et puis le plus important pour nous, parce que le plus important, c'est les concerts. On vous retrouve donc dans la région plus proche que Genève. Hein. On vous retrouve en concert au Ninkasi Café de Lyon. Ce sera le jeudi 25 octobre 2012.
Oui, certainement.
Voilà. Alors Jean-Michel, tout d'abord, bonne chance pour la suite des aventures de Monogrenade.
Merci, merci.
Bon concert alors, en Suisse, en France, au Luxembourg, en Belgique et ailleurs. Bon voyage surtout. Et puis,
merci beaucoup, c'est notre premier concert ce soir, donc on a bien hâte.
Bien, et puis ben, ma foi, à bientôt sur Tropic FM.
Ben, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.